Vous écoutez
RMC.
Polo, bonsoir.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde. J'ai adoré votre débat, je ne suis pas d'accord sur beaucoup de choses, mais j'ai adoré.
Alors, Polo, toi ce qui nous intéresse, c'est un débat qui en fait est un peu annexe, mais qui est très intéressant, c'est que tu nous décryptes un petit peu la méthode Red Bull. Alors, je cite Red Bull, je ne citerai pas mille fois, parce que...
Ah, tu vas dire boisson...
Bah, RB, voilà, on va dire RB. Non, parce que c'est quand même une poison... j'ai lâché le mot sans... J'ai fait un lapsus révélateur. J'ai dit poison. C'était quand même interdit en France il y a quelques années, je le rappelle. Bon. Mais tout de même, dans leur stratégie de développement du sport, dans leur stratégie de formation, ils ont une méthode bien à eux, très particulière, transversale sur plusieurs pays. Donc, on voulait que tu nous racontes ça un peu dans le détail. Là, on ne parle pas évidemment de l'équipe première de Leipzig ou de Salzbourg, mais de leur façon de travailler.
Bon, le RB, en fait, est pour moi la continuation d'un autre projet qui venait d'Offenheim, où il y avait déjà une personne à l'époque qui s'appelait Ralf Rangnick, qui est évidemment passé dans la galaxie RB. L'idée est très simple. L'idée, c'est de recruter ce qu'on appelle un peu pompeusement des jeunes à fort potentiel, que eux ont récupéré selon leurs propres critères, et ils estiment que ces jeunes ont encore leur disque dur vide, et qu'on va pouvoir leur mettre dedans ce qu'on a envie dans un style de jeu extrêmement offensif, qui soit là pour faire un spectacle. Donc, si tu veux, moi, c'est ma définition du projet Red Bull, c'est-à-dire d'aller chercher chez jeunes partout sur le continent, enfin partout sur la planète, avec un maillage du territoire mondial qui est assez impressionnant. Mais d'ailleurs, le problème, c'est qu'il y a aussi du marketing derrière un petit peu. C'est pour ça que ça a échoué pour l'instant en Afrique avec l'académie qui était au Ghana. Ça n'a pas fait décoller les ventes, bien entendu, parce que le produit là-bas n'était pas apprécié. Par contre, ils sont au Brésil, ils sont évidemment en Amérique latine avec leur showroom, évidemment New York, ils sont évidemment avec Salzbourg et ils sont avec Leipzig. Mais surtout moi, ce qui m'a impressionné, c'est leur maillage mondial, et si tu le permets, j'ai une expérience personnelle
donc
avec
ça
eux.
Ça nécessite beaucoup d'argent, Polo.
Exactement, l'argent n'est pas mis dans le joueur post-formé fini, c'est on le forme nous-mêmes, et en fait dans les infrastructures on investit énormément, à tel point que certains pensent que leur politique commerciale, excusez-moi d'employer le mot, de recrutement est très agressive par rapport à d'autres clubs.
Et Polo, est-ce que ça veut dire ces moyens-là...
J'ai l'impression que tu parles de bagnole là, on parle de footballeur.
C'est de l'industrie hein,
Écoute, excusez-moi de vous couper, si l'académie de Ghana a été fermée, mais c'est parce que le produit, la canette n'était pas appréciée dans ce pays-là, et c'est l'une des explications qui a été donnée.
Oui, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas perdre de vue qu'en fait, ils sont là pour vendre la boisson.
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toute la différence que je dis moi, entre Offenheim et la galaxie Red Bull, c'est qu'Offenheim, monsieur Dietmar Hopp, lui voulait faire une marque Offenheim. C'est-à-dire qu'il voulait que le club joue d'une telle façon et qu'on parle de la marque Offenheim. Ben là, en fait, à Red Bull, c'est différent, à Salzbourg et à Leipzig. On veut une marque d'une marque. Tu vois ce que je veux dire? On veut que avec les couleurs du club, qui évidemment sont celles de l'entreprise, on veut que tout le monde dans le monde puisse reconnaître ça avec un style de jeu particulier, mais qui n'est pas lié à un club, mais qui est lié à une marque de boissons énergisantes.
Ouais, donc Paulo, je te disais, donc ça nécessite les moyens pour donc ce fameux maillage pour recruter un peu partout, mais également au sein de la direction, on va dire le département foot, mettre des gens extrêmement compétents pour développer le projet.
Exactement.
Donc là, d'ailleurs, ça nécessite moyens pour recruter ces mecs-là et cibler les personnes et les compétences.
Exactement. Et d'ailleurs, ceux qui ne rentrent pas, on va dire, dans cette philosophie sont dégagés. En gros, il faut avoir des résultats et il faut pouvoir justifier ces investissements.
Et qui est la tête pensante de tout ça?
Alors, il y a différentes personnes. Il faut savoir que Ralf Rangnick, évidemment, a été celui qui a tout pensé le projet, à tel point, parce qu'il y a un défaut, en fait, dans le projet Red Bull, à tel point qu'il y a quelques années, le fameux magazine Elf Freunde en Allemagne a fait une longue interview de Ralf Rangnick en lui disant, mais est-ce que finalement vous n'êtes pas en train de tuer le football? Pourquoi? Parce que Ralf Rangnick, en fait, n'est pas du tout intéressé par le footballeur de rue. Si tu veux, si je caricature ce que la galaxie Red Bull veut faire, elle fait presque du football scientifique pour les jeunes. Ouais. C'est-à-dire qu'on est en train de créer des petits robots de telle façon, on s'en fiche un petit peu d'ailleurs d'où ils viennent, hein, c'est assez intéressant à ce niveau-là. On parle beaucoup des Français en ce moment.
On gomme complètement l'aspect culturel, on rentre le mec dans un moule.
Exactement, on n'en a rien fait. On le fait rentrer dans un moule, il y a un côté... Alors, je mets ça entre guillemets, évidemment, il y a un côté eugénisme, hein, faut dire quand même, de produire les choses par rapport à un football de rue. Tu vois, Maradona, j'ai du mal à croire qu'il ait pu, qu'il pourrait rentrer chez Red Bull.
Ouais,
d'ailleurs,
il y a de la casse. Ce que tu veux dire. Ouais,
d'ailleurs,
vrai,
il y a une casse extraordinaire au niveau des jeunes. Ce qui est très intéressant, c'est que lorsque vous allez en seconde division, évidemment, Salzbourg a un partenariat avec un club de seconde division qui s'appelle Liefering, qui est un autre club de Salzbourg, et qui sont donc en division professionnelle allemande. Et en fait, vous avez que des jeunes de 16 à 19 ans. Et ensuite, tu les fais passer à Salzbourg. Pour ça que les équipes sont toujours très jeunes. Et en plus, ça rejaillit par la suite. Alors, Paulo, en équipe nationale.
Oui. J'aimerais juste qu'on accueille Damien Périnel, qui évidemment va nous apporter son témoignage. Damien, qu'on connaît bien dans l'after. Salut Damien.
Salut tout le monde.
Salut Damien.
Alors toi, t'as joué au New York RB, en l'occurrence. Donc, t'as vu le système de l'intérieur. Est-ce que sur ce que dit Paulo, là, t'es d'accord pour l'instant?
Ouais, dans l'ensemble, Paulo est très bien informé sur ce qui se passe. Chez RB, comme vous dites. Après, quand t'es dans le système Red Bull, voilà, t'as une philosophie de jeu qui est, t'as un cadre qui est le même pour tous les clubs. Ensuite, les coachs de chaque club mettent leurs ingrédients pour que la méthode fonctionne, en fait. Donc, en effet, là où je suis d'accord avec, même ça revient à ce qui se passe avec le sujet précédent. Les gamins, ils les prennent à 18-19 ans. Ils ont déjà fait quelques matchs en pro en France, notamment. Il y a eu de nombreux cas. Mais après, ils sont pas là pour faire du trading non plus, parce que généralement, ils restent 3 ans. Ils sont 2 ans à Salzbourg. Ensuite, ils font 2 ans à Leipzig, ou alors 3 ans et en fin de compte, ils sont restés 4-5 ans dans le club. Et en effet, derrière, ils revendent, comme ça a été le cas avec Naby Keïta ou avec Sadio Mané. Ouais,
donc, ils font quand même du trading.
Oui, mais
pas rapide, pas immédiat. Quoi.
Quel club aujourd'hui garde des joueurs 6-7 ans sans les revendre? Ça n'existe plus.
Ouais, oui, c'est
rare.
Si, les
voilà. Là, quand je vois la composition d'équipe qui a joué en Champions League contre le Zénith, mais en fait, il y a Orban qui est là depuis 2015. T'as le gardien qui est là depuis 2015, t'as Werner qui est là depuis 2016. Donc en gros, voilà, l'équipe elle est fondée, elle est là, et puis ils ont le système de jeu, c'est intégré dans le disque dur, comme a dit Paulo, de chaque joueur. Chacun se connaît par cœur, chacun sait les mouvements que l'autre va faire, les intentions de jeu. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, ouais, c'est un laboratoire. Alors robot, c'est un peu exagéré, parce qu'il y a toujours l'inspiration personnelle qui, sur un Werner, il a toujours le talent intrinsèque en soi. Mais en effet, voilà, chacun sait la partition et connaît la partition à jouer.
Paulo, tu veux répondre à Damien, t'es d'accord
comme système.
Non, alors là, je suis tout à fait d'accord avec Damien, mais en fait, je suis à la fois d'accord avec Damien et à la fois d'accord avec Daniel, mais en même temps pas d'accord avec eux. Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, le trading fait partie, comme vous l'avez dit très bien, évidemment de la majorité des clubs, sauf évidemment les très grands clubs européens qui peuvent se permettre de faire un petit peu ce qu'ils veulent. Pardon. Aujourd'hui, Daniel a dit une fois que Leipzig était un faux gros, mais je crois pas que le terme de faux gros soit exact. C'est juste un club qui monte en puissance, c'est-à-dire que c'est pareil, ils sont un peu parano chez Red Bull, et si tu veux, pour sortir les chiffres, c'est un peu compliqué chez eux, mais ils ont quand même sorti au mois de février 2019 pour ceux de 2017. Donc ils sont passés en quasiment un an, ils ont gagné quasiment 100 millions d'euros d'un seul coup, donc ils sont aujourd'hui dans une fourchette qui est de 200 à 250 millions d'euros. 200 à 250 millions d'euros aujourd'hui de chiffre d'affaires. Tu dois faire du trading, tu ne peux pas résister en gros à l'appel des gros clubs européens. Donc ce n'est pas un faux gros, c'est un club qui est en construction pour moi, parce que je ne sais pas ce que sera le Leipzig dans 10 ans, par exemple. L'autre paramètre qui me semble important, c'est que la haine qu'il y a eu, par exemple, en Allemagne sur ce genre de club est toujours à géométrie variable, puisqu'avant, c'était Hoffenheim qui s'en prendrait plein la figure parce que c'était le milliardaire, aujourd'hui, etc. Mais ce qu'on n'oublie pas, ce que tout le monde oublie, c'est que ce qu'a apporté Hoffenheim et ce qu'a apporté la galaxie Red Bull au football allemand est extraordinaire dans toute l'ensemble du football allemand par rapport aux joueurs et aux entraîneurs qu'on a. Le week-end dernier, il y avait Mönchengladbach contre Francfort. Je suis désolé, c'est Adi Hütter, autrichien, ancien coach de Salzbourg, contre Marco Rose, l'ancien coach de Salzbourg et l'entraîneur qui a gagné la Youth League avec Salzbourg. Tu t'en fais pas un favori au départ quand même. Donc il y a tout un projet qui est très intéressant. Et je voudrais, si vous le permettez, me donner une expérience personnelle. Il y a 4 ans, j'ai été contacté par un journaliste qui travaille en Afrique, notamment, parce qu'il voulait absolument que je le mette en contact avec Red Bull, avec la galaxie Red Bull, pour lui proposer des jeunes Africains, etc. Donc j'étais extrêmement réticent, moi, parce que bon, dès qu'on a en dessous de 18 ans, j'ai beaucoup de problèmes avec les trading et les choses comme ça. Et je lui dis, écoute, je veux absolument que ce soit nickel, etc. Donc j'ai contacté oui, la personne que je connaissais chez Red Bull, qui aujourd'hui d'ailleurs est partie aux États-Unis, qui s'appelait Tanner, et je lui explique, etc. Et donc il le fait, et il me renvoie un mail. Je lui ai juste demandé de faire un retour sur la façon dont il avait accueilli cette personne et dans la façon les joueurs qu'on leur avait proposés. Il m'a dit, écoutez, on vous remercie beaucoup, on connaissait tous les joueurs par cœur, etc. Ta, 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 ta. Et c'était des gamins de 15-16 ans. C'est-à-dire que le maillage mondial de Red Bull est assez impressionnant. C'est ça, moi, qui m'a impressionné dans ce cas-là.
Damien, merci beaucoup.
C'est juste une dernière chose par rapport à ce qu'on dit sur la mentalité des joueurs français et tout ça. Le jeu Red Bull, c'est un jeu de transition où il faut être capable de faire 2-3 efforts d'affilée à très haute intensité. Et aujourd'hui, pour un Français, faire ça, c'est compliqué. Rien qu'au point de vue mentalité du joueur. Voilà, c'est-à-dire que quand on joue dans ce système, c'est du don de soi. Faut pas avoir peur de courir, faut pas avoir peur de faire des sprints, mais de l'haute intensité dans tout ce qu'on fait. Et aujourd'hui, c'est là où on pêche un peu, je crois, dans la formation du joueur français.
Merci Damien.
Merci.
À très vite dans l'after, bien sûr. Tu reviendras bientôt avec nous. Alors, Polo, merci, t'es toujours là.
Bravo,
Polo. L'actu, oui. Il y avait de la Coupe d'Allemagne cette semaine, il y avait notamment un choc entre Dortmund et Mönchengladbach. Qu'est-ce que tu retiens de cette session de Coupe d'Allemagne?
Écoute, on a eu deux journées assez extraordinaires. Parfois, les premiers tours de Coupe d'Allemagne ne sont pas forcément intéressants. Là, c'était chaud. Il y a deux équipes de 4e division qui sont réussies de se qualifier en 8e. Le match Dortmund-Mönchengladbach, je vais faire plaisir à Flo. Il y a eu encore un but de Marcus Thuram. Beau but, d'ailleurs, de la tête de Marcus Thuram. Mais ils ont malheureusement perdu 2-1. Ce qui est miraculeux, un peu pour le Borussia Dortmund, qui a un vrai problème, qui joue très bien à 200 à l'heure pendant 20 minutes et qui s'écroule complètement. Je sais même pas comment ils ont fait pour se qualifier. Doublé de Brandt, etc., qui faisait pas rien depuis plusieurs semaines. Ça c'est intéressant. L'autre information qui me semble importante, c'est la première défaite de Wolfsburg de la saison, qui s'est pris une raclée face à Leipzig 6-1, et bon, ça leur pendait au nez un petit peu. Donc on attend les tirages au sort, et même l'Union Berlin est allé gagner à Fribourg et se retrouve en 8e de finale. La dernière fois que l'Union avait passé l'hiver au chaud, puisque les prochains matchs seront en 8e, ils ont été en finale.
Il y a un truc qui a échappé à beaucoup de monde en France, mais moi j'ai vu des images incroyables. Il y avait un match entre le Hertha Berlin en coupe et le Locomotive
Dynamo Dresde.
Chaque fois je ne sais pas pourquoi je confonds chaque fois. Bon bref, le Dynamo Dresde 4e division ou 3e, je ne sais plus.
Seconde division.
2e division. Ouais. Stade plein.
Ouais.
Combien de spectateurs de Dresde venus à Berlin?
Plus de 30 000.
Plus de 30 000. Match en semaine.
Oui.
En semaine de coupe. 30 000 mecs qui se déplacent.
Oui, mais il y a une raison pour ça. C'est justement ça coupe le.
Ah, mais qu'on arrête de nous dire qu'on va pas jouer en semaine. En France, il y a personne.
Non, mais là c'est un match.
On va jouer tous les 3 jours. Tu te racontes, tu vas pas comparer.
Attention, Gilbert. C'est un match extrêmement politique, en fait. C'est-à-dire que c'est la même chose que l'Union contre le Hertha. Il fut un temps où le Dynamo Dresde était la figure de proue du football allemand, à tel point que c'était devenu le Dynamo Berlin, c'est-à-dire qu'on avait créé
un club de la Stasi, c'est Berlin. Ça?
Exactement, c'est le club de la Stasi. Et si tu veux, en face, t'avais le club de l'Ouest, alors c'est à l'époque où l'Allemagne était séparée, où Berlin était séparé. Et donc, il y avait des relations, on va dire, entre le Dynamo et le Hertha Berlin qui étaient pas sympathique du tout, très chaude. Hein. Moi, j'ai des exemples de choses qui se sont passées où il y a des gars qui faisaient le mur pour aller se tabasser entre eux, etc. Enfin, c'était assez violent. Et donc, en fait, là, tu retrouves un match extrêmement politisé. Je le dis toujours. Il y a même plus de 10 ans, je vous disais que le football allemand, moi, ce qui m'a toujours marqué, comme le football italien, c'est que c'est un football extrêmement politisé. Qui me marque beaucoup parce qu'on en parle pas beaucoup en France. On n'a pas l'habitude.
C'est vrai.
Sportif.
Donc, en fait, les gars qui soutiennent Dresde, c'est quoi? C'est les nostalgiques, comme on dit en Allemagne.
Non, parce que là, attends, si tu commences à partir là-dessus, on est pour 2 heures. Donc les...
Je ne pas Polo.
Polo, il est passionnant quand il parle de ça, c'est génial.
La Dynamo,
c'est pour les vélos à l'époque.
Oui, c'était la Staatliche Polizei, donc c'est la police d'État, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est la pire des choses qui peut arriver quand tu t'appelles Dynamo. Ils ont choisi de garder ce nom d'ailleurs à l'époque parce qu'ils disent c'est notre histoire, etc. Donc ce sont des matchs extrêmement politisés. Ce qui est génial, c'est que ça a fait un match extraordinaire. Il y a eu 3-3, où d'ailleurs le RT était pas loin de sortir. C'est fini au penalty extraordinaire. Bon, il y a beaucoup d'amendes qui vont tomber vu les fumigènes qu'il y avait à l'Olympiastadion, mais c'est assez extraordinaire d'avoir des matchs comme ça. Alors au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu trop de violence apparemment, mais on craignait pire quand même.
Alors, et ce week-end, il y a un autre match lourd de sens. C'est donc le derby de Berlin qui n'a pas eu lieu depuis 77, si je dis pas de bêtises. Polo. Ah, j'ai dit des bêtises.
Ah bah oui, la première. En fait, c'est la cinquième fois que ça va exister, et c'est la première fois, c'était en 2010, en seconde division.
Ah pardon. Bon bah autant pour moi. Alors c'est peut-être depuis 77 en Bundesliga alors.
Ça n'a jamais existé en Bundesliga.
Ça n'a jamais existé. Très bien.
À l'époque, l'Union de Berlin.
Donc j'ai lu une bêtise. Parce que je me suis renseigné.
Je te rappelle que tu m'as allumé. Je te rappelle, mon cher Gilbert, que tu m'as allumé parce que j'avais un t-shirt lors des matchs de Ligue des Champions, qui est un t-shirt collector de la rencontre du 5 février 2011
exact.
À l'Olympiastadion entre le Hertha Berlin et l'Union de Berlin, gagné évidemment par le plus grand club du monde, l'Union de Berlin.
Alors vous savez que Daniel et Jérôme, à l'époque de l'Allemagne de l'Est, quand il y avait un coup franc. Les spectateurs criaient faites tomber le mur.
Oui. Mais ça, alors c'est très intéressant.
Il y avait les mecs à l'est qui voulaient faire tomber le mur et passer à l'ouest.
Ah bah,
comment
pas,
ça se fait
c'est un peu plus complexe que ça. Ah
bah c'est étonnant. Moi je pensais que c'était les mecs de l'ouest qui voulaient passer à l'est. Ça s'est jamais vu dans ce sens-là.
Non mais ça c'est pas
ça aussi existait. Ça aussi existait.
Ah ouais.
Ce n'est pas de ton niveau.
C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fait tomber.
Daniel, tu mérites mieux.
Les mecs ont couru d'ailleurs. Putain, ils sont tous précipités. Ils ont dit merde. Matraban, rendez-la moi, je vais passer de l'autre côté, je vais aller chez les copos moi aussi.
Aujourd'hui, en 2019, quelle est la situation?
C'est tout faux, Daniel. C'est affolant. C'est beaucoup plus complexe que ça. D'ailleurs,
ah bah oui, reste sur le foot, c'est mieux. Vas-y.
C'est vrai, il y a eu un vote électoral, je rappelle, ce week-end en Thuringe. 41% des plus de 60 ans ont voté pour Die Linke, donc il y a quelque chose, Daniel, qu'il faut réfléchir là-dessus.
Non, mais je rejoins Polo. Alors vas-y, Polo, sur ce match de ce week-end, là.
Oui, alors justement, on cherche à faire une opposition entre le Hertha et l'Union, qui est beaucoup plus complexe que ça, puisque en fait le Hertha était plus l'ami de l'Union à l'époque de l'ex-RDA, et l'Union évidemment était détesté par la Stasi et le Dynamo, qui fait d'ailleurs que l'Union passait.
C'est un club rebelle, quoi. Même à l'est.
Hein, ah bah c'était assez. C'est tout simplement un club de syndicats. Ah,
pourquoi ils étaient rebelles à l'est?
Ils étaient rebelles à l'est.
Je sais pas. Vous parlez de nostalgie du communisme depuis tout à l'heure.
T'as pas suivi, tu fais des raccourcis qui n'ont pas lieu d'être.
Eh oui.
Et après t'arrives là.
Oh là là, oui. Bah non, il y a des excellents livres là-dessus.
Il y a toujours des raccourcis.
Mais là, mais justement, ce que t'expliques, Polo, c'est que ce club-là, l'Union Berlin, n'était pas dans la ligne justement du parti à l'époque.
T'inquiète pas, j'ai bien suivi.
C'était un club rebelle. Si,
on a bien suivi, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Mais bon, je vous écoute à tel point que
l'État de la RDA les empêchait en fait d'avoir des centres de formation ou des clubs rattachés à l'Union pour développer les jeunes tout simplement. Et on voulait absolument qu'ils baissent de division, etc. Enfin, il y a beaucoup de matchs cultes à ce niveau-là avec des arbitrages extrêmement douteux, mais c'est comme ça.
Bon, donc ce sera samedi, hein, donc à suivre évidemment.
Oui, alors c'est très intéressant.
Analyser par rapport à 2011.
Pour conclure, je sais, par rapport à 2011, parce qu'aujourd'hui on cherche à faire une opposition entre ces deux clubs. C'est pas vraiment des clubs, c'est juste une concurrence aujourd'hui d'une ville qui est récente puisque réunifiée. Le football de l'ex-RDA a eu du mal à se relever justement du communisme et puis de 30 ans de libéralisme, ce que tout le monde oublie. Et en fait, ils arrivent maintenant à ce niveau-là et on cherche à en faire vraiment un nouveau duel. En fait, c'est faux, c'est juste des concurrents par rapport à une ville, donc ça va être un stade derby, un derby de la ville tout simplement, qui est relativement sain. Par contre, moi, pour avoir été au stade et d'avoir écouté les gens du Hertha et de l'Union, ce qui est très intéressant, c'est que les gens, puisque vous parliez de nostalgie, il y a encore beaucoup de gars de l'Ouest qui traitent d'une façon extrêmement méprisante des gars de l'Est, et les gars de l'Est qui disent à l'Ouest vous êtes tous des riches, etc. Donc c'est toujours un peu, ça existe toujours un peu, si vous voulez, 30 ans après le mur, il y a toujours un petit peu cette ambiance lorsque vous êtes dans les travées des stades, et ou que vous êtes tout simplement dehors, ou vous allez à l'hôtel discuter de ces rencontres-là avec les gens et la population. Il y a toujours une, quand même, le petit frère de l'Est, s'il pouvait être loin, ça serait sympa, quoi.
Polo, merci beaucoup. Évidemment, tu nous feras un résumé de tout ça dès lundi dans l'after. Merci à toi.
Salut Polo.
Salut Polo. Ciao, ciao.
Tout de suite, on a avec nous Fred Hermel. Fréo, bonsoir.
Hola chicos.
Salut les amis. Les choses se remettent dans l'ordre. Le Real et le Barça reprennent le pouvoir, même avec un match en retard. C'est ce qui est en train de se passer.
Ouais, enfin,
là le classement, parce que comme Retafe est en train de battre le leader,
eh oui.
Grenade, si on regarde le classement, nous avons le Barça à 22 points, le Real à 21 points, Grenade à 21 points, l'Atlético à 20 points, Séville à 20 points, Real Sociedad à 19 points, Villarreal à 17 eh points.
C'est depuis 1927 que ça n'a pas été aussi serré.
C'est hyper serré, ouais, c'est vrai. Et bon, c'est vrai que le Barça et le Real ont un match en retard, hein, qui va se disputer le 18 décembre. Mais c'est vrai que c'est la Liga la plus serrée. En tout cas, depuis que je suis en Espagne, je me souviens pas d'une Liga aussi serrée avec autant de.
Elle est skinny.
Non,
mais l'année dernière, tu me tenais le même discours.
Ouais, mais c'est encore pire. Non, mais ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Tous les ans, ça se. Tu vois, par exemple, la saison dernière, le champion d'Espagne.
Donc, si je te demande si c'est parce que le Barça et le Real baissent de niveau ou si c'est les autres qui tous montent, tu vas me dire que c'est les autres qui montent.
Il a déjà expliqué l'autre jour.
Mais par exemple, la saison dernière, le Barça, il est plus égalitaire. Je ne sais pas s'il est meilleur. Je trouve qu'il est plus égalitaire. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Mais l'an dernier, par exemple, le Barça a été le champion de tous les grands championnats européens qui a gagné la Liga avec le moins de points. Et la Liga espagnole a été parmi les ligas, les gros championnats européens, celle où rester en division a coûté le plus de points. C'est-à-dire qu'il fallait beaucoup de points pour rester.
Est-ce que c'est pas l'année où les résultats européens ont un peu baissé également?
L'an dernier? Oui, tout à fait.
Ah.
Mais
non, il n'y a pas de lien, d'accord.
Non, mais je pense que
il peut y avoir rien, pourquoi il n'y en aurait pas?
Je posais la question, moi. J'attends la lumière.
Je pense que après 6-7 ans de domination absolue de la Liga espagnole, il était normal qu'il y ait un petit.
Oui, tu ne vas pas dominer pendant 30 ans, on est d'accord.
Voilà, après, si c'est.
Peut-être qu'il y a également une baisse de niveau de la Liga, c'est une question.
Je ne sais pas. Je ne sais. En tout cas, au niveau de la qualité du jeu, je ne trouve pas. Alors que but de Grenade.
Ils reviennent à 2-1.
Donc, je ne sais pas si le niveau de la Liga baisse. En tout cas, au niveau de ce que moi j'aime, le spectacle technique.
Ah non, ça oui, de ce côté-là, non.
Ça prend du plaisir. Ça, et c'est ce qui c'est. Après, on va voir par rapport au résultat européen. Je pense qu'il faut au moins 2-3 saisons pour voir. Enfin, c'est pas sur une saison, parce que sincèrement, c'est aussi un peu en trompe-l'œil. Si le Barça ne fait pas la connerie incroyable de perdre 4-0, le match retour de demi-finale de la Ligue des Champions.
C'est comme Rudy Garcia, s'il avait pas perdu les gros matchs, il aurait été en champion avec l'OM.
Mais simplement, le Barça se retrouve en finale contre Tottenham aurait gagné et on aurait dit encore la Ligue qui domine. Tu vois, ça se joue pas à grand chose.
Dans ces cas-là, s'il n'y a pas pour Manchester à la dernière minute, qui sait, le PSG est peut-être un client sérieux l'année dernière. Ça n'existe pas. C'est un truc par-ci par-là. Sur le match retour, le Barça n'existe pas, le prend de haut, il se fait manger, c'est tout.
Est terrible, il se fait balader, on est d'accord. Mais enfin bref, tout ça pour dire que c'est très intéressant de voir cette Liga hyper serrée. Et moi j'aime bien ça. Donc, mais moi ce qui me fait marrer les amis, c'est que quand il y avait le Barça et le Real qui avaient 15 points d'avance sur tout le monde, on disait oh là là, c'est un problème de Liga, il y a un manque de compétitivité de Liga. Et là que tout est serré, et on disait ça en France ou on disait pas ça en France?
Rappelle-toi,
on appelle ça la Liga bipolaire. Et maintenant que c'est hyper serré, on dit ah ouais, la Liga baisse de niveau. Voilà, il y a toujours un truc. Non, mais sérieux.
On a le même discours, nous, en France, hein, je te rassure, hein, avec le championnat de France. Alors bon, on va pas dire que le niveau est meilleur.
Le passé européen des Espagnols sur les 10-15 dernières années est tellement différent d'une autre peuvent se poser des questions, se demander, débattre. Nous, c'est sûr que ça baisse tout le temps. Nous, il n'y a pas de problème. Nous, les résultats européens le montrent. Eux, bon, ils peuvent rater une année, comme a dit Fred.
Mais
qu'ils viennent pas me dire ça joue à peu de choses et tout, parce que l'année d'avant, le Real gagne, que la Juve a ce pénalty contre elle au Bernabeu à la dernière minute, bah oui, mais si c'est pas sifflé dans ce sens-là, s'ils vont gagner derrière,
si le Barça avait pas déconné sur un match, il aurait sûrement gagné la Ligue des Champions, et on n'aurait pas dit que les clubs espagnols avaient fait une mauvaise saison. Ils ont encore gagné avec des champions. Tu vois ce que je veux dire?
C'est bien la preuve que.
De toute façon, on est obligé.
Je poserai ma question après.
On regarde les matchs, mais entre le Barça de l'année dernière et même celui de cette année, on sent c'est pas la meilleure équipe qu'il y a eu à Barcelone. Donc forcément, le niveau de Barcelone était bien meilleur il y a quelques années.
Il y a quand même un truc sur les
comme le Real.
Il y a quand même un truc qu'il faut dire sur les clubs moyens espagnols. Enfin, moi, j'aime bien regarder.
Tu vas quand même pas dire que les Séville, les Betis, ils sont moins forts.
Ah bah attends.
Si, si.
Ah non, tu peux pas dire ça, dis pas ça, Fred.
Si, bah, Cristiano, c'était la référence.
Tu peux pas dire ça. Non, tu vois, la référence, elle est encore là. Hein, elle est à la pointe de
la. Il cherche, Fred, t'as pas compris?
Mais non, mais surtout que Cristiano Ronaldo manque. Mais c'est évident qu'il manque à n'importe quel. Et je vais même dire, il manque à la Liga, bien entendu. Mais moi, la question qu'on m'avait posée en dernier, est-ce que les supporters le regrettent? Non, ils ne le regrettent pas, parce que quand quelqu'un veut partir, voilà, c'est fini. Donc c'est pas moi qui pense ça. Moi, je pense que c'est terrible que Cristiano soit pas là, parce que pour la Liga c'est magnifique, mais les supporters du Real sont fâchés contre Cristiano parce qu'il a voulu partir.
Tu veux que je dise, Fred, moi il y a un argument que j'utiliserais plus si j'étais toi. C'est la qualité technique globale de ton championnat. Moi, j'ai regardé Grenade Betis par exemple. Grenade,
là-dessus, on va pas discuter.
Bon, voilà, Grenade ils viennent de D2. Voilà. Je veux dire le match. Et même quand tu passes d'un match anglais moyen mode je sais pas moi Wolverhampton Huddersfield au hasard.
C'est marrant parce que ce que tu dis là quand tout à l'heure
moi je préfère l'espagnol.
Voilà. Ah mais ça c'est je te confirme.
Ah bah d'accord. C'est ça l'argument que Fred devrait mettre en avant.
C'est ce que
je mets en avant mais on veut pas m'écouter.
Si mais on est tous d'accord avec toi là-dessus. Parce que c'est marrant parce que quand tu disais tout à l'heure quand on parle de la formation française, de tous les joueurs, l'exportation et tout, et que je vous dis que c'est du produit standard, c'est parce qu'il n'y a aucune identité dans le joueur que tu formes. L'espagnol, il est technique. L'anglais, il est technique, mais il se caractérise par une forme, dans leur championnat, une forme l'anglais d'intensité
pas,
non, très forte.
L'anglais fort. est pas technique par rapport aux critères espagnols, je suis désolé.
De quoi tu dis?
L'anglais n'est
oui,
pas non, technique
bien
par
sûr,
rapport
bien
à mes
sûr,
critères, critères mais espagnols. Tu peux pas dire que l'anglais soit technique.
Tu peux avoir, il peut y avoir de, si chez les jeunes, non, si tu regardes leur sélection de jeunes et tout, t'as beaucoup, même les jeunes de Chelsea et tout, t'as beaucoup de joueurs qui sont techniques. Mais là, ce que tu vas mettre en avant comme caractéristique, c'est la capacité à mettre beaucoup d'intensité,
la vitesse, la verticalité, machin.
L'Espagne, mais ouais. quand je critique la formation française, c'est parce que d'abord, la technique, on la voit tous les week-ends. On la bosse pas. L'intensité, ils sont pas foutus de la mettre parce qu'ils sont pas motivés. Ils sont motivés quand ils vont à l'étranger. Donc, arrêtez de me faire chier avec notre formation.
Mais toi, tu en fais toujours à ça.
C'est pas qu'on la bosse pas la technique, Daniel.
À juste titre, tu viens de dire à Fred, quand tu regardes un match espagnol, tu vois bien que n'importe quel joueur de seconde zone, avec le ballon, il lève la tête, son port de corps, son toucher de balle, la façon qu'il a de conduire le ballon. Voilà. Nous, quand tu vois les mecs, là, débordés, là, la tête dedans, là, ils courent comme des teubés, bah voilà, ça, c'est le fruit de notre formation. Parce qu'on fait du produit standard.
Tu fais des erreurs dans
tous les championnats.
Ouais, mais sur la masse, on vend. On est les premiers exportateurs. Bravo.
Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, mais c'est
Daniel,
ça.
Laisse-moi te dire un truc.
C'est comme la Chine à l'époque avec leur magnétoscope là.
Mais c'est de ta faute. Et tous les autres qui parlent d'intensité, de ceci, cela. C'est nous. En fait, on confond tout en France. Le problème, c'est que maintenant, tu dis l'impact, l'intensité, parce que c'est les grandes phrases. D'accord. Dès qu'on fait, j'ai repris l'or hier. C'est la vérité. Dès qu'il y a un match, et il manque d'impact, l'intensité, pas assez d'intensité, pas assez de ceci. Mais c'est la technique, la différence. Après, l'intensité, elle vient avec, Daniel. Et le problème, c'est que nous, on confond tout.
Mais les jeunes,
ça revient toujours à la même chose. En France, les jeunes, pour gagner, et ils ont raison, c'est que ceux qui sont formés plus tôt que les autres, eh ben tu les prends.
Physique.
En général, les joueurs
donc
physiques.
Donc tu bosses ni l'un ni l'autre.
Tu bosses sur l'impact, sur l'intensité, parce que le mec qui est formé en avance par rapport à un autre, il va courir plus longtemps et plus vite.
Les efforts, le physique, c'est juste
Fred,
mettre un coup d'épaule.
Juste, Axel nous dit, sur Direct Studio, je regarde beaucoup les matchs espagnols, et pourtant, sentimentalement, j'ai rien de précis avec l'Espagne, mais le niveau des petits clubs augmente, c'est sûr, et en plus les grands clubs ont réalisé plutôt un mauvais début de saison. Donc du coup, ça crée un écart qui se resserre de cette façon-là.
Ce que nous explique souvent.
Voilà. Alors que la France, il dit c'est l'inverse. L'écart se resserre parce que le niveau des grands clubs hors PSG chute considérablement.
Faut pas lire Stéphane Moulin, entraîneur d'Angers, qui hier dans le Figaro donne une interview pour dire que si les gros clubs sont pas là, bah non, c'est pas du tout que le niveau baisse, c'est que le niveau augmente. Si Angers est dans les premières places.
Fred, quel club qui ne fait pas partie des trois gros peut jouer les troubles faits cette année.
Tu me laisses simplement parce que Daniel a expliqué un truc et je pense qu'il se trompe. Quand il dit on ne bosse pas, C'est pas qu'on bosse pas la technique, c'est qu'on exclut les joueurs techniques. On ne les choisit pas, les petites
techniques. Ah non, mais je te rassure. Hey, je te rassure.
Ouais, bon, ça c'est un peu passé. T'es un peu en
retard.
Je suis pas en désaccord total, mais c'est un peu. C'est pas aussi simple.
Parce que la technique, il y a des outils qui sont imparables. Et moi, je les ai connus heureusement, et qu'aujourd'hui, on les utilise plus. Voilà, c'est tout.
Alors, je termine pour le truc, parce que vous avez parlé de choses très intéressantes. La question d'intensité. Le mot intensité est le mot utilisé par un entraîneur qui s'appelle Zidane. Après, je sais pas comment ça se passe en France, mais en Espagne, la technique ne suffit pas. Parce que, pourquoi le Real perd à Majorque? Le Real perd à Majorque parce que, évidemment que le Real est supérieur à cette équipe de Majorque. Simplement, il y a tellement de bons joueurs techniques, même à Majorque, que ta simple technique, toi, joueur du Real, ne suffit pas. Si tu mets pas de l'impact.
Mais ça, on est d'accord.
C'est pas que l'intensité, elle est plus forte que la technique. C'est pas ça. C'est que les mecs sont, ceux d'en face, comme ils sont tous techniques, t'es obligé, toi, ta technique seule ne suffit pas face à eux. Il faut que tu mettes aussi d'énergie.
N'importe qui a joué au football à n'importe quel niveau, t'as pas besoin d'avoir joué au plus haut niveau pour te rendre compte que le plus important dans le football, c'est la technique.
C'est la justesse. Je dirais même mieux, la justesse technique.
Une fois que t'as la technique,
tu sais taper dans le ballon et faire une passe.
Écoute, une fois que t'as ça, bien sûr que tu travailles l'intensité, c'est-à-dire l'intensité pas que par la course, mais par rapport à la façon dont t'orientes.
Et après, si t'as envie de te faire mal, hein, parce que des joueurs techniques, ils ont vu leur carrière.
On est d'accord. On est d'accord.
Un mec comme Pastore,
on en a connu plein.
Mais regardez Hazard. Regardez Hazard, par exemple.
Et voilà. Tu veux pas te faire mal. Tu vas pas y arriver.
Regardez simplement Hazard. Pourquoi c'est dur au Real? Parce qu'il pensait que c'était comme à Chelsea. Il pensait que c'était comme à Chelsea.
Mais c'est même pas qu'il pensait que c'était comme à Chelsea, Fred. Ça va beaucoup. C'est beaucoup plus vaste que ça, le problème Hazard. Lis toutes ses interviews depuis Lille et tu verras qu'il a une conception du sport de haut niveau qui est une capacité à se faire mal sur un tournoi, sur quelques matchs, mais sur le long terme est déficiente. Il l'a avoué lui-même. Maintenant, s'il change au Real, tant mieux pour lui parce qu'il a beaucoup de talent.
Non, mais il va
mais
changer.
C'est pas un mec qui veut se faire mal.
Vu le talent qu'il a et la carrière qu'il a fait, il s'est adapté au foot anglais et c'était pas gagné quand il est parti de Lille. Il s'est adapté au foot anglais, il l'a dominé, il a été un joueur incroyable, le meilleur joueur du foot anglais. Aujourd'hui, il arrive en Espagne dans une autre culture, dans un club qui, en plus de ça,
notre exigence. Fred,
quand t'es une recrue phare, t'as aussi besoin d'avoir une stabilité derrière toi, c'est-à-dire un collectif beaucoup plus fort que l'est le Real aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le Real est trop dépendant des individualités comme Hazard, comme Benzema.
Et pour Eden Hazard, Fred, médite cette phrase que beaucoup de gens disent.
Alors,
s'il n'avait pas été wallon mais flamand, il serait déjà beaucoup plus fort.
Mais il s'adaptera, tu verras, il faut lui laisser le temps.
Merci Fredo.
Je t'entends pas.
Je disais merci Fredo. Bonne soirée.
Oui, donc on peut terminer quand même sur
Non, on n'a plus le temps là, on n'a pas le temps d'exploser le chrono, c'est malheureux, c'est comme ça.
On n'a plus le temps, Fred.
Bah, alors reste après 23h alors.
Je reste après 23h pour dire deux mots sur les matchs d'hier quand même.
Vermel toujours là bien sûr. Ah mon Fredouille.
3-1 pour Rétafé, je sais que ça t'intéresse.
Mais ça m'intéresse.
Oui, alors, je t'ai posé une question là tout à l'heure avant la pause.
Les élections, t'allais dire.
Non, avant la pause. Quel club, outre les trois gros, peut jouer les troubles fêtes cette année?
La Real Sociedad et Séville.
D'accord.
Moi, vraiment. Et il se trouve que la Real Sociedad et Séville sont ceux qui jouent le plus beau football depuis le début de la saison. Vraiment.
Excellent.
Ça aide aussi de ne pas jouer la Ligue des Champions, hein, puisque la Real Sociedad ne joue pas les Coupes européennes et Séville ne joue que la Ligue Europa. Et par rapport à ce que je disais, tous les Espagnols sont virtuellement qualifiés en Ligue Europa, hein, par exemple. Ça veut dire quelque chose aussi. Mais les trois Espagnols, je crois qu'ils sont tous les trois.
Alors, sur les matchs du week-end, qu'est-ce que tu voulais nous dire que tu n'as pas pu dire avant 23h?
Du milieu de semaine, je veux dire. Non, oui. Simplement. Alors, il y a eu le Barça qui a gagné facilement, le Real qui a gagné facilement. C'est vrai qu'ils jouaient l'un contre Valladolid, l'autre contre les Leganés. Mais quand on parle souvent de la concurrence des clubs anglais et qu'il y a la sensation en Espagne qu'il faut se réinventer. Et c'est vrai que les Espagnols.
Écoutez Fred, les gars.
Les Espagnols ont aujourd'hui une nouvelle manière de faire éclore des nouveaux joueurs. Quand on voit Ansu Fati au Barça, qui hier était titulaire à la place de. Avant Griezmann, quoi. Mm-hmm. Griezmann est rentré après l'heure de jeu. Donc, Ansu Fati, qui est un joueur produit par le Barça, détecté par le Barça, produit par le Barça, on s'attend à ce qu'il devienne un extraordinaire joueur. Et le Real, je parle de ça parce que tous les deux ont été importants dans ces deux derniers matchs. Du côté du Real, vous avez Rodrigo. Alors Rodrigo, il a 18 ans, vous le connaissez, enfin, peu de gens le connaissent. Il a été acheté il y a 2 ans par le Real Madrid. Il n'est pas sorti du Brésil avant cet été, avant d'avoir eu ses 18 ans. Et ce type, il a de grandes chances d'être présent dans des matchs très très important pour le Real. Rappelez-vous la semaine dernière à Galatasaray, plutôt à Istanbul contre Galatasaray, où Zidane joue sa tête. Et ben c'est le premier match où il met titulaire Rodrigo. Voilà, le Real, comme il y a une concurrence financière que les clubs anglais, c'est impossible. Le Real et le Barça ont toujours de l'argent pour acheter des joueurs, mais essayent de miser aussi sur des joueurs très jeunes. Et donc là, on a deux exemples en Espagne, d'un côté Ansu Fati et de l'autre côté Rodrigo. Et je peux vous assurer qu'on va beaucoup parler de ces joueurs parce qu'ils sont très très bien formés.
Fredo, oui, dernière question de Julien. Oui, à Leganés, là, le français, là, comment il va? Le français de Leganés, Xavier Dupont.
Alors, je cherche, je dis putain, elle va où celle-là, mais.
Bah, il vient de là-bas. Bah,
il est bien caché tout au fond du classement.
Ouais, il a joué à Nantes un peu.
Il est caché. Ouais.
Il est caché tout au fond du classement.
Et dis-moi, tu nous as même pas donné le nouveau record de Benzema.
On va abîmer la pelouse.
Il n'y avait pas le record de Benzema.
C'est un beau record quand même.
C'est devenu le joueur français qui a marqué le plus de buts dans un championnat étranger.
229.
Il a dépassé Thierry Henry qui avait 228.
Bravo Benzema.
Ah, mais qui sait Thierry Henry par rapport à Benzema?
Bravo Benzema. Merci Fredo.
Pourquoi vous ne pensez pas que Benzema peut un coup de temps en temps avoir un petit peu de reconnaissance?
Ben oui, moi je te dis, bravo Benzema.
Toi oui.
On n'arrête pas de le dire.
Et je sais pas si vous avez vu son match hier. J'ose même plus en parler parce que c'est tellement évident que j'ai l'impression de me répéter quand je dis que Benzema était le meilleur du Real. Ça fait un an que ça dure.
Salut Fredo.
Depuis Cristiano.
À très vite. Simone Rovera est parmi nous. Simone, bonsoir.
Ciao, Manassara, bonsoir.
Ah, te revoilà, toi.
Simone.
C'est capitaine à la maison, Simone.
Oh non.
C'est toi qui as la télécommande ou pas?
Chez moi? Non, c'est Ginevra, c'est la petite.
Ah, il se sort bien, il est fort.
Par lui, il est fort. Toldo.
Ah non, bah lui c'est
non, Toldo par contre.
Lui, il se fait des voiles Disney toute la journée. Lui.
Alors, chez moi, Netflix est toujours dans la partie enfant. T'as l'option parent-enfant, et c'est toujours dans la partie enfant.
Mais tu peux pas te faire becter comme ça. Plus tradition. Les clés du frigo, c'est lui qui les a, par contre.
Ouais. Simone.
Ah oui.
Ça, c'est pas la petite.
Hein. Il a le garde-manger.
Ah oui.
Ah, les salauds. Bon, dis-moi, on a failli assister en milieu de semaine, comme ça, discretos, à un renversement de situation avec l'Inter qui prend la tête, là.
Oui, on a risqué vraiment parce que déjà l'Inter jouait mardi, la Juve mercredi, donc elle a passé la nuit de mardi en tête après une victoire très compliquée mais quand même importante face au Brescia. Et pour l'Inter, félicitations pour l'instant, il fallait vraiment le faire à Lautaro Martinez et Lukaku qui sont en train de se découvrir et marquer but sur but, match après match, et c'est un peu le pari gagné de l'Inter. Mais si l'Inter a été vraiment à deux doigts et à 30 secondes de prendre la tête du championnat, c'est parce que la Juve a eu vraiment, vraiment du mal face à un sublime Genoa entraîné par Thiago Motta, qui est venu à faire un super match à Turin et a mis en difficulté la Juve, qui seulement dans les temps additionnels, vraiment dans la dernière action, a trouvé un penalty.
Ah ouais, avec bah, ils ont vraiment trouvé le
penalty. Dis-moi, il y a eu la vraie petite tradition du péno de la Juve.
Surtout, ce jour-là, il fallait pas voir la VAR.
Cristiano s'est vu devant une attaquant qui défendait, donc il n'y avait pas les bons mouvements, et il a trouvé la façon d'aller lui prendre les pieds, on peut dire, et c'est faire siffler pénalty.
Voilà.
C'était très drôle qu'il y a quelques années, quand Cristiano jouait au Real Madrid, était venu à Turin, une des commentateurs de la télévision de la Juve disait, ah, vous savez, Cristiano, on l'appelle le Piscinazo, c'est toujours comme ça, il se jette, etc. Et hier, bien sûr, il faisait la fête sur ce penalty pour la maîtrise avec qui Cristiano l'avait pris.
Bon. Et ça n'a pas fait plus de polémique que ça?
Pas beaucoup.
La tradition, on touche pas.
ça fait plus de polémiques, beaucoup plus de polémiques, ce que s'est passé l'après-midi à Naples. Avec Carlo Ancelotti, qui la situation est très simple. Il y a un penalty demandé par Naples. L'arbitre laisse jouer sur l'action. Atalanta marque un but, donc égalise de partout. Et l'arbitrage vidéo n'intervient pas et dit enfin qu'il y avait une faute de l'orienter sur le défenseur de l'Atalanta. Mais à ce moment-là, les joueurs de Naples sont furieux, entourent l'arbitre. Carlo Ancelotti entre sur le terrain pour chercher de calmer les esprits. Et après que l'arbitre lui demande « Aide-moi à calmer les esprits », Carlo Ancelotti lui répond en disant bah, « Si tu vois tout ça, tu n'as pas un doute qu'il y avait pénalty ?» Et s'est fait exclure. Donc,
Exclure Ancelotti, il faut vouloir. Hein, ouais, s'il y a bien un mec qui ne dit jamais rien.
Non, mais attends.
Surtout quand l'arbitre... Classe.
Non, mais attends, je l'ai vu le match. J'ai vu comment ça s'était passé à la fin. Faut reconnaître qu'à mon avis, pour qu'il lui mette un rouge direct comme ça, l'arbitre, après, une fois qu'il a repoussé ses joueurs dans son camp, il a pas dû lui dire, t'as pas vu qu'il y avait pénalty.
Tu sais, parfois les arbitres.
Ça, c'est la version de Carlo Ancelotti
il y a eu des mots différents, je pense.
Quand t'es vexé, que tu penses que tu t'es planté, parfois t'es pire et tu mets des rouges à des mecs parce qu'ils te vexent, parce que tu te rends compte que t'as fait une connerie. Ça arrive.
Ouais, non, mais
c'est la double connerie. Ouais.
Je te conseille de regarder.
Moi, j'ai confiance en Carlo, c'est un gentil. Dis-moi, pour revenir à la Juve, là, Sarri qui dit qu'il avait regardé les matchs des U19 de Thiago Motta. C'est du pipon ou c'est vrai?
La mère de l'arbitre, on a pris un petit peu.
Non, alors c'est vrai parce que c'est moi qui lui ai posé la question.
Excellente question.
Et c'est le deuxième entraîneur, parce que avant, Corini, entraîneur du Brescia, avait dit avant le match du début de Thiago Motta, j'ai aucune idée de comment on va jouer ces Genois. Et donc, j'ai essayé de regarder les matchs de U19 du PSG. Imaginez donc ces joueurs qui personne presque connaît. Bah, il y en a certains qui font très bien à la Coupe du Monde au 17 ans, mais sont pas connus au grand monde avec Maurizio Sarri et des autres entraîneurs de CA qui se mettent à revoir les matchs de l'année dernière de l'équipe U19 du Paris Saint-Germain. C'est de la visibilité incroyable. Après, est-ce que ça aide vraiment? Selon Sarri, il y avait certaines situations de jeu qu'il n'avait pas pu voir dans les matchs Brescia-Genoa, et donc Genoa-Brescia, donc a été obligé d'aller les chercher dans la façon où Thiago Motta entraînait les U19. Mais c'est sympa, c'est amusant. Après, Thiago Motta est en train de faire un bon boulot. Une chose à dire, Genoa reste à 10 après 6 minutes de la deuxième mi-temps. Et chaque changement qu'il fait Thiago Motta, c'est attaquant pour attaquant, joueur offensif pour joueur offensif. Et, il fait tout la deuxième mi-temps en cherchant d'aller gagner ses matchs pour sur un terrain de la Juve et réduite à 10 contre 11. Et à la fin du match, les statistiques de la Ligue italienne nous disent que les Genoa a eu 51% des possessions de ballon sur le terrain de la Juve avec 37
minutes. Il va marquer les esprits. Là, déjà 11. En deux matchs, il fait parler de lui comme entraîneur. Hein.
Bah, hier soir sur la Sky, on parlait de lui. On a découvert un très bon entraîneur. Aujourd'hui, il avait 6.5 ou 7 sur presque tous les quotidiens. Donc, oui, il est en train de marquer les esprits.
Il joue contre l'Udinese et qui est pas très bien, qui est moitié de tableau, une victoire.
Qui a cassé 11 buts sur les deux derniers matchs, l'Udinese. Donc. C'est vraiment l'occasion pour, oui, marquer définitivement les esprits ou quand même prendre un petit avantage sur ce que c'est sa mission cette saison, c'est-à-dire maintenir
le Genoa. Ouais.
Julien Laurent, c'est là. Salut Julien.
Bon, j'y ai.
Pas combien, mais
salut, Romain. Salut à tous.
Alors, t'avais pas de championnat, toi, mais t'avais de la Coupe de la Ligue. Alors, en France, la Coupe de la Ligue, il y a quelques semaines, plus personne n'en voulait, mais bon, les choses sont peut-être en train de se retourner doucement.
T'as vu? Ah, on a réussi, hein, Gilbert.
Oui, exactement.
Les deux, là.
On a déjà réussi à convaincre Daniel.
Tu parles pas à Christophe Dugarry, là, s'il te plaît, excuse-moi.
Ah oui, voilà. Oui, je m'en étais rendu compte.
Ouais, mais... Lui, que ça, par contre, ça, c'est clair. En club.
Hein. En Angleterre, ça fait débat, la Coupe de la Ligue, ou pas du tout?
Non, pas trop. Le seul débat qu'on a, et on y viendra tout à l'heure, c'est le problème de calendrier pour Liverpool avec la Coupe du Monde des clubs, qui pourrait clasher avec le quart de finale justement qu'ils doivent jouer à Aston Villa au mois de décembre. Mais à part ça, non, ça fait pas trop discuter. Il y a des clubs qui font jouer leur équipe réserve, comme on a vu avec Liverpool et Arsenal hier soir. C'était un beau match, mais c'était quand même un match d'équipe réserve, l'équipe B contre l'équipe B. Mais sinon, non, c'est plutôt une compétition qui fait kiffer les Anglais jusqu'à un certain point quand même.
Jusqu'à un certain point. Bon,
enfin, voilà, c'est ça. Enfin, ils kiffent pas.
Un doublé d'Origi de ouf quand même. Qu'est-ce que c'est que ce mec? C'est pas le mec qui était à Lille quand même.
Pas possible.
C'est le même mec. C'est le même mec qui est aussi marquant en finale de Ligue des Champions. Ouais. Tu sais, Julien. C'est plus là, le même Origi. Hein,
non, mais c'est là, il y a un mec qui l'a tiré dessus. Il a mis le pire en opposition. C'est pas pareil. Et là, il a mis deux buts de ouf.
Mais quand même, tu vois que la fin de saison qu'il a pu faire avec son club, le niveau qu'il a réussi à avoir, et dès qu'il rentre, alors il joue pas beaucoup, hein, pas un titulaire, mais dès qu'il rentre, ou soit il est titulaire dans une équipe, tu sens qu'il y a vraiment une vraie différence avec les autres. Vraiment, il fait des vraies différences, il est sûr de lui. Moi, je sais pas ce qu'en pense Julien, mais ce joueur a été complètement transformé, quoi.
C'est vrai que la saison dernière lui a fait beaucoup de bien. Il avait marqué aussi dans le derby contre Everton à la dernière minute, un but un peu gag, mais il était quand même au bon endroit, au bon moment. Il a parfois plus de mal quand il est titulaire, comme on l'a vu à Manchester United, par exemple, où c'est vrai qu'il était un petit peu passé à côté. T'as plus l'impression qu'il est plus un joueur d'impact qui sort du banc, par exemple, qui peut faire. Super et ça, c'est sûr que c'est.
Un peu choupé.
Non, mais tu vois, il y a Salah, Mané, Firmino. Ah non. Et puis après, il y a Origi qui est capable quand même de te faire 20 très très bonnes minutes ou effectivement, comme Julien dit tout à l'heure, hein, sortir un match comme hier où il est pas très bon, mais il marque deux très beaux buts, notamment le deuxième qui est le but du 5-5 à la 93e minute et qui envoie le match au
contrôle. Il est ouf. Le contrôle, il est incroyable.
Contrôle derrière la jambe, ouais.
Ah, c'est vrai. Et Oxlade-Chamberlain aussi, c'est quoi ses buts? Toutes les semaines, il met un but de ouf.
Alors déjà contre Genk, effectivement, en Ligue des Champions, la frappe extérieure pied droit à l'entrée de la surface en pleine lucarne, elle était très beau. Et c'est vrai qu'hier, demi-volée comme ça sous la barre aussi. Mais c'est ce genre de joueurs-là qui vont faire la différence pour eux, hein, de façon.
Lui, il a une super cote, hein. Et c'est vrai que quand tu parles à tous ses coéquipiers, hein, que ce soit ceux qu'il a eu à Arsenal ou ceux qu'il a à Liverpool, ils te disent beaucoup de bonnes choses sur lui, hein. Vraiment, c'est un joueur qui est complet, qui a une... Et après, je sais pas ce qui lui manque, peut-être un peu de mental aussi pour arriver à s'inscrire dans la durée et devenir un titulaire, mais franchement.
Il manque de pas être anglais, déjà.
Tiens, je vous coupe parce que mon fils est en train de faire la différence face au Moldave, Talbot.
Allez, c'est parti.
Talbot, Albot.
Allez, Albot, pardon.
4 choses à 1 effectivement pour Gaël Monfils dans ce troisième et dernier set. Je pense que Albot a compris qu'il avait laissé filer sa chance puisqu'il a servi à 6-4, 4-3 et là il s'est effondré pour ne pas employer d'autres termes.
Ah ouais, mais ça c'est le mental de Gaël.
Oui, bien sûr. Bon, puis on se rend compte qu'il est 50 mondial et pas plus. Quoi. Voilà, c'est peut-être une raison aussi à cela. Hein.
Très bien, tu nous confirmes ça dans quelques instants, bien sûr.
Gagné, merci, c'est bien ça.
À tout de suite. Julien, mis à part ce 5-5 de fou là, il y a autre chose à retenir de la semaine en Coupe de la Ligue?
Donc la victoire de Manchester United à Chelsea, 2-1 hier soir aussi.
Équipe
avec
B aussi
un...
pour les deux.
Alors pas trop pour Manchester United. Solskjaer avait décidé de mettre, on va dire à 80% sa meilleure équipe. Toujours pas de Pogba qui est toujours blessé, mais Martial par exemple qui est revenu le week-end dernier avait lui été mis au repos. Mais sinon on avait quasiment l'ossature qui est en train de jouer en ce moment avec une défense à 3. Et ça s'est plutôt bien passé avec un doublé de Rashford dont un deuxième but exceptionnel sur coup franc à la Cristiano Ronaldo, il la frappe avec son coup de pied, le lacet, le ballon t'as presque l'impression qu'il tire avec un ballon en plastique de plage par exemple. Tellement le ballon bouge et va dans la lucarne. C'est vrai que c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, joyeux anniversaire à Marcus Rashford qui nous écoute, comme tous bien les soirs. 22 ans, il a aujourd'hui.
Il nous podcast le lendemain.
Ouais. Voilà, souvent pour aller à l'entraînement, effectivement, dans sa voiture.
Respect le deuxième podcast de France. C'est normal qu'il nous podcast.
Bien sûr. Mais c'est une bonne période en ce moment, hein, pour Manchester United. On verra ce week-end contre Bournemouth. Mais c'est vrai qu'entre la victoire à Norwich, le match nul contre Liverpool et la victoire à Chelsea hier, les choses vont un petit peu mieux pour eux.
Il peut aussi nous écouter en direct, hein, par ailleurs, avec l'appli.
Bien sûr.
Julien, rien d'autre?
Tout à fait, bien sûr. Très rapidement sur donc Liverpool et Klopp, et cette polémique sur le calendrier et donc notamment ce quart de finale de Coupe de la Ligue contre Aston Villa qui devrait donc se jouer le 16 décembre. Normalement, c'est comme ça, c'est les dates pour tout le monde. Sauf que le 16 décembre, c'est le jour où Liverpool part au Qatar pour le championnat du monde des clubs qui donc joueront en tant que champion d'Europe en titre. Donc ça peut poser problème. Klopp a dit hier soir après le match, si vous ne trouvez pas une bonne date pour jouer cette rencontre, et je vous parle pas du jour de Noël à 3h du matin, eh ben on le jouera pas, on déclarera forfait et Aston Villa sera qualifié direct, ou alors c'est Arsenal qui jouera ce quart de finale parce que nous on n'est pas prêt à accepter n'importe quoi pour retrouver une place pour ce match. C'est vrai qu'ils ont un calendrier de fou.
Et ben c'est
assuré. Il aurait pu, mais en tout cas pour l'instant il n'était pas du tout content hier sur le fait qu'on puisse forcer Liverpool à jouer à une date qui leur conviendrait pas beaucoup.
Ouais. Merci Julien.
Merci les gars.